On est dans les info points, c'est-à-dire dans le centre d'accueil où le PLRM vient pour être informé, pour prendre des renseignements, pour savoir ce qu'il faut faire, pour commencer le pèlerinage vers la porte sainte de Saint-Pierre. C'est-à-dire c'est un lieu très dynamique, très vivant et plein de pèlerins.
Combien de personnes attendez-vous cette année ?
Alors, ce n'est pas moi qui peux le dire. Quand on m'a demandé, l'autorité du gouvernement italien, combien du monde nous attendons, alors j'ai demandé à la faculté de sociologie. Et j'ai demandé une étude scientifique. Et la réponse était 32 millions de pèlerins seront pour le jubilé. Et je dois dire que le nombre est véritable, parce que si vous pensez que à partir du 24 de décembre, c'est-à-dire l'ouverture de la Porte Sainte, jusqu'au 6 de janvier, et dans 10 jours, on a eu plus de la moitié d'un million qui ont passé par la Porte Sainte. Et cela, vraiment, il nous fait dire que même pour les grands événements qu'on a organisés, les numéros, je pense par exemple au jubilé des adolescentes, au jubilé des jeunes, les numéros vont chaque jour augmenter.
Qu'est-ce que l'on vient chercher dans une année jubilaire ?
Ah bien, je dirais avant tout une expérience spirituelle. C'est ce qui me pousse dans l'organisation. On ne peut pas oublier qu'on a préparé ce jubilé, le Saint-Père. Il a décidé de préparer les jubilés 2 ans en avant. Le premier an était dédié à découvrir de nouveau les thèmes des 4 constitutions du Vatican II, mais l'année dernière, c'était dédié à la prière. Toute l'année, une année de prière. Je dois dire qu'on a eu des belles expériences dans toute l'Église. On a reçu de belles expériences et cela était en préparation du jubilé. Alors le jubilé devient une étape. Je vois le jubilé comme une étape spirituelle. C'est avant tout le désir de s'arrêter un moment, s'arrêter pour réfléchir, pour prier, pour être avec soi-même. Et ici, on a la découverte sur la nécessité de voir le visage, de découvrir le visage du Christ. Et c'est pour cela qu'on commence un pèlerinage. C'est pour cela qu'on commence à se mettre en chemin. Être en chemin est symbole de la vie de chacun de nous, croyante ou non croyante, chacune est en chemin. Et chacun aussi espère. On ne peut pas oublier que cette expérience de spiritualité devient, je désire, nous sommes en train de la préparer dans cette direction, soit aussi une expérience pour vérifier, pour vivre l'espérance chrétienne.
Alors justement, Mgr Fisichella, est-ce qu'il y a un thème pour ce jubilé ?
Absolument, 2 mots. Pèlerin d'espérance, c'est le motto du jubilé. Pèlerin, c'est-à-dire en chemin. Pèlerin ne signifie pas être seulement en chemin, parce qu'on peut être en chemin, mais sans avoir la finalité, la mette de notre chemin. Non, le pèlerin, il connaît où il est la direction. Il connaît où il faut aller. C'est pour cela que le pèlerin est une catégorie, je dirais, de personnes très particulières. C'est bon de savoir que les jeunes, surtout aujourd'hui, il aime se mettre en pèlerinage. On peut le voir parce que mon dicastère est responsable des chemins de pèlerinage de tous les sanctuaires dans le monde. Et on peut voir dans quelle façon la recherche de se mettre un chemin, d'être pèlerin, et va toucher surtout l'enthousiasme des jeunes. Alors, pèlerin, mais d'espérance, c'est-à-dire témoin de l'espérance. Mais j'aime et je dois ajouter de l'espérance chrétienne. L'expérience, c'est vrai, comme dit justement le Saint-Père dans la bulle du jubilé, l'expérience universelle de l'espérance touche chacun, croyante ou non-croyante. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'espérance? Quel est le contenu de notre espérance? Cela va donner un contenu très particulier qu'il faut découvrir.
L'espérance, c'est que la vie continue après la mort.
Pas seulement cela. L'espérance chrétienne signifie que moi, je suis sûr que la vie éternelle est déjà commencée maintenant, parce que je l'ai reçue à partir de mon baptême. Cela est la vie éternelle. Est la vie de grâce, est la vie de communion avec Dieu. Dieu, dans le jour de mon baptême, m'a donné sa vie. Et cette vie est vécue avec les contradictions que nous avons, les péchés que nous avons, mais doit être vécue dans l'espérance que continue après la mort. Et cela vient de la certitude que nous avons de la résurrection du Christ. Saint Paul, il a une expression enthousiasmant, je dirais. En écrivant sa dernière lettre à l'apôtre Timothée, il va écrire « Christ Jésus, notre espérance ». Le nom de Jésus, le titre de Jésus comme ressuscité, le Christ, est notre espérance. Cela est l'espérance de chacun de nous. Et la certitude que la résurrection du Christ appartient aussi à moi. C'est la certitude que la vie de Dieu ne termine pas avec la mort parce que la mort a été vaincue par la résurrection. Alors, en traduisant cela, signifie que l'espérance m'oblige à garder au futur, mais me donne la possibilité et d'une certaine façon m'oblige à vivre et préparer mon présent.
Monseigneur, on dit que le centre de gravité du christianisme s'est déplacé vers les pays du Sud, en Afrique en particulier. Est-ce qu'il y aura, au cours de cette année jubilaire, plus de nationalités venues du Sud global que d'Europe? Est-ce qu'on le sait, ça, déjà?
Bien, on connaît déjà des inscriptions qui viennent. Il y a beaucoup qui viennent de l'Amérique latine. C'est plus difficile de l'Afrique et aussi de l'Asie, parce que il faut aussi considérer les conditions économiques. Se mettre en voyage vers Rome, ce n'est pas facile. Ça coûte beaucoup. Nous sommes dans la possibilité d'aider ceux qui aiment pour une fois dans la vie de rejoindre le tombeau de Pierre et Paul. Mais c'est vrai aussi que les conditions objectives aussi donné par l'État d'Italie. On ne peut pas oublier que pour des pays, il y a l'obligation du visa et la permission, ce n'est pas toujours très facile.
Dans les pays où l'évangélisation est interdite, c'est le cas de la Chine par exemple, est-ce qu'on sait s'il y aura des catholiques chinois qui vont venir par exemple dans les classes moyennes chinoises qui peuvent se permettre le voyage?
Absolument. Ce ne sera pas la première fois. Je me souviens très bien un nombreux groupe de Chinoises qui étaient présents pour le jubilé de la miséricorde. Et j'ai face à mes yeux l'enthousiasme de rencontrer un évêque et d'être en prière dans la basilique de Saint-Marie-Majeur, en prière avec un nombreux groupe de Chinois. N'oublions aussi qu'il y a en Italie, il y a beaucoup de Chinois et qui sont aussi catholiques.
À Prato en particulier.
Prato, capitale du textile. C'est un exemple, absolument.
Donald Trump a été élu, il a parlé de Dieu, il a juré sur la Bible. C'est une forme d'espérance ?
Eh bien, je dirais, c'est sans doute une forme d'espérance, mais c'est l'espérance pour s'engager dans le présent. C'est-à-dire, jurer sur la Bible peut être un acte formel. Il faut voir l'intention plus profonde qui guide les personnes quand on va faire un acte aussi important et déterminant comme prendre dans les mains le pouvoir d'un pays qui est sans doute un pays important dans le monde.
Le pape a eu des paroles de paix toujours équilibrées entre la Russie et l'Ukraine pour essayer de trouver une issue au conflit. Est-ce que vous pensez qu'on s'achemine ? Est-ce qu'il y a une espérance de ce côté-là, selon vous ?
Mais cette espérance nous guide à partir du premier jour. On a un livre qui a été publié et on a donné le titre « L'encyclique sur la paix en Ukraine » par le pape François. Et je dois dire, c'est un livre qui a mis ensemble les nombreux et intervention du Saint-Père sur la nécessité de la paix en Ukraine. Alors je dirais, on est face à 2 ans et plus de...
3 ans même.
Trois ans de guerre inutile. Parce que chaque guerre est inutile, surtout aujourd'hui quand on a la possibilité de se parler, de dialoguer, de la politique, de la diplomatie, de toutes les formes de démocratie qu'on a. Alors cette guerre doit terminer, mais j'aimerais n'oublier pas qu'il y a aussi des autres guerres. Il y a à peu près 30-40 guerres dans le monde, en ce moment-là, aujourd'hui.
Des guerres oubliées.
Et sont des guerres oubliées. Mais même dans ces pays, il y a la violence de la guerre, il y a des innocentes qui meurent, il y a la dignité des personnes qui n'est pas respectée.
Monseigneur Fisichella, quand on parle d'évangélisation, ma question est un petit peu abrasive. Est-ce qu'on évangélise aussi les protestants, les orthodoxes ?
Non. L'évangélisation, ce n'est pas pour des catégories de personnes. L'évangélisation, ce n'est pas faite parce qu'on a une crise ou on a une division. L'évangélisation est faite par l'Église parce qu'elle doit être obéissante à ce que le Seigneur a voulu, c'est-à-dire annoncer l'Évangile à chacun, à tout le monde, à toutes les nations. Alors, l'annonce de l'Évangile n'appartient pas seulement aux catholiques. L'annonce de l'Évangile appartient à tous les baptisés. On ne peut pas oublier cela. Les premiers, dans l'histoire, je dois dire, des derniers siècles, les premières qui ont découvert la responsabilité de la mission de l'évangélisation, c'était les protestantes, ne sont pas les catholiques. Si vous pensez, dans les documents du Vatican II, le terme évangélisation, c'est presque que méconnu. On parle toujours de mission. Et bien sûr, parce qu'on a fait la mission. L'évangélisation qui n'est pas seulement la mission, et la responsabilité des croyantes dans une période comme la nôtre, qui a oublié l'évangélisation, qui a oublié de participer aux autres, la foi, l'expérience de la rencontre avec le Seigneur, c'est pour tout le monde.
On a l'impression, Monseigneur Fisichella, que l'évangélisation, ça marche dans les pays pauvres. Mais dans l'Europe riche, on commence à oublier le christianisme et ça devient résiduel. Comment faut faire là ?
Alors, je dois dire que face à cette question, j'ai toujours deux sentiments différents. Dans une partie, c'est vrai, l'Europe, pas seulement l'Europe, l'Occident vive un moment de crise profonde de foi. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une profonde recherche de spiritualité. Il y a une profonde recherche qu'il faut être capable de donner, de présenter. Et alors cela, et à partir de cela, il faut comprendre que l'évangélisation, pour répondre aussi à votre question, commence dans notre communauté. Il faut découvrir la responsabilité de partager avec les autres la joie de la rencontre avec notre Seigneur.
Merci beaucoup, Mgr Rino Fisichella, de nous avoir accordé cet entretien.
À vous.
Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Merci à vous, Louis Dauphren, qui est donc à Rome. Et à partir de 9h10, débat du jour un peu inédit, en direct de Rome, tour de l'actualité ecclésiale avec Étienne Pépin, Cyprien Viette de l'agence Immédia et Jean-Charles Puzzolu de Radio Vatican, rédacteur en chef de Radio Vatican. Ce sera donc à suivre à partir de 9h10.